Les enjeux internationaux.
Avec vous Thierry Garcin, bonjour.
Bonjour Guillaume Herner, on va parler alors des primaires aux États-Unis, quelques comparaisons avec les primaires en France. Notre invité est Dick Howard, qui est professeur émérite à l'université de Stony Brook, c'est à New York. Et il faut noter évidemment la victoire de Madame Clinton aux primaires de mardi dernier, également le fait que les dernières primaires démocrates auront lieu mardi prochain et que les conventions nationales, républicaines et démocrates, se tiendront mi- et fin juillet. Le processus des primaires semble très démocratisant, il réduirait le poids de l'establishment, mais il présente aussi des défauts de taille. La comparaison entre les États-Unis et la France, où il s'agit d'une nouvelle forme de consultation, la France, cette comparaison vaut la peine d'être tentée, même s'il est très difficile de comparer deux systèmes politiques si différents. D'abord, il faudrait distinguer entre primaire et caucus aux États-Unis, entre primaire ouverte et primaire fermée, ce qui ne simplifierait rien. Il faudrait analyser les modes d'organisation, le rôle de la médiatisation, laquelle influe sur la perception des dossiers des candidats. Donc on va quand même tout de suite avec Dick Howard procéder un petit rappel historique nécessaire à propos des primaires américaines.
Effectivement, il y avait eu quelques idées de primaires avant, mais en 1960, il y avait John Kennedy, catholique de Massachusetts. Il n'y avait pas eu de président catholique aux États-Unis, il y avait des préjugés. Donc, il s'est présenté dans les primaires du petit État de Virginie de l'Ouest, État très protestant, et il a gagné. Et du coup, on ne pouvait plus dire non, un catholique ne passera pas. 4 ans après, chez les républicains cette fois, c'est le phénomène Goldwater, donc la droite libertaire radicale qui va justement jouer les primaires pour se débarrasser des puissances de Rockefeller et Company qui dominaient le parti républicain du côté est. Donc à partir de ce moment-là, les primaires deviennent intéressantes. Mais les primaires ont un autre côté parce que vous aviez en même temps, à partir de 64, vous aviez la guerre au Vietnam et les protestations. Et du coup, en 68, Johnson est acculé à ne pas se représenter. On nomme son vice-président Frey, qui n'avait jamais concouru aux primaires. Et là, il y a la convention démocrate à Chicago qui va devenir la scène d'émeute. Et les démocrates vont être laminés par Nixon. Du coup, on se dit, tiens, ben, la primaire, c'est peut-être pas une si bonne chose, ou il faudrait organiser cela autrement. Et du coup, dernière étape pour l'instant, en 72, chez les démocrates, c'est le démocrate de gauche radical, McGovern, qui va avoir la nomination et qui va gagner, si mon souvenir est exact, un seul État, plus Washington DC, le district. Donc, bonne chose, mauvaise chose, démocratisation, fausse démocratie, qu'est-ce que c'est alors?
Alors c'est intéressant parce que vos critiques négatives, un certain nombre d'entre elles, à l'égard des primaires américaines, résonnent d'une certaine façon pour les primaires des principaux partis politiques en France. Et vous dites, par exemple, que cela personnalise les débats, que cela attise les tendances au sein des partis, les grands partis de gouvernement. Et puis, alors ça c'est vraiment, on le voit en France, c'est qu'au fond, les primaires, c'est très bien, non pas pour les candidats principaux, mais pour les candidats, on va dire, entre guillemets, hein, extrémistes ou des extrêmes de chaque parti.
Absolument. Et encore une fois, c'est une bonne et une mauvaise chose, parce que si on supprime ces voix extrême entre guillemets, on perd aussi. On ne veut pas un centre mou qui nous gouverne. On ne veut pas, comme dirait une certaine politicienne de la droite française, on ne veut pas un UMPS. Donc, c'est bien qu'il y ait des extrêmes. En même temps, du coup, qu'est-ce qu'il y a comme gouvernement? Parce qu'on ne va pas avoir un gouvernement uniquement de la gauche ou uniquement de la droite. Et bon, j'ai pas besoin de vous faire une leçon sur ce qu'il en est de la politique du Parti Socialiste actuellement, ni non plus du chaos qui est en train de se mettre en place chez les Républicains lors de leur primaire.
Il y a des parentés d'ailleurs à propos de ces primaires entre les États-Unis et la France. On l'avait dit souvent, les partis politiques de gouvernement en France sont devenus souvent des machines électorales. On les critique parce qu'ils n'ont pas vraiment de programme, parce que aussi toutes ces primaires sont relativement médiatisées, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas que des avantages aux primaires. Et puis, alors, ça fait des campagnes électorales. Alors, les États-Unis vivent en campagne électorale permanente. Hein. Mais la France avait au moins la chance d'avoir des mandats, des législatures longues.
Oui, elle avait. Mais vous êtes en pré-primaire ici depuis presque aussi longtemps que nous aux États-Unis.
Ça peut avoir un effet démobilisateur, d'ailleurs.
Démobilisateur d'une part, mais d'autre part, ça ne prête pas à un vrai débat. Il faudrait distinguer, me semble-t-il, entre démocratie comme suffrage et démocratie représentative. Et qu'est-ce que c'est que la représentation? Et ici en France, lorsqu'il y avait la pensée républicaine, c'est-à-dire de la République, la troisième ou quatrième du nom, même un peu de la cinquième, on avait l'idée que représentation était une manière justement d'établir un rapport entre le député ou le représentant et ce qu'il représentait. Il y avait une sorte de dialectique. Mais si la démocratie se réduit au suffrage direct, comment justifier le résultat? Le résultat va être, ici en France, ça c'est la Ve République, c'est-à-dire c'est la présidentialisation. Et du coup, le Parlement ne joue pas de rôle. L'avantage aux États-Unis, on n'a pas parlé de ça, et je n'ai pas parlé dans mes papiers récemment, mais n'oubliez pas qu'on va élire aux États-Unis un président, oui, mais on va aussi élire un Sénat et une Chambre.
Et le tiers du Sénat et tous les représentants.
Absolument.
Et des gouverneurs aussi, beaucoup.
Oui, mais soit dit en passant, d'ailleurs, il y a de fortes 90% de chances que les démocrates reprennent le Sénat. Mais c'est une autre question. Mais ce qui est important, c'est que du coup, avec cette division des pouvoirs aux États-Unis, il y a quand même lieu ou possibilité d'un débat. Tandis qu'ici en France, avec la présidentialisation, le Parlement finit par ne plus jouer de rôle.
Oui, on a souvent parlé de chambre d'enregistrement, finalement, qu'elle soit rose ou qu'elle soit de droite, d'ailleurs, au cours des dernières décennies.
Absolument. Mais encore une fois, vous dites l'idée d'assemblée bleue, par exemple. Bon, historiquement en France, il y avait la chambre bleue horizon au 19e siècle qui était un désastre. Donc, on ne veut pas dire non plus que le vote, qu'il soit pour l'assemblée ou pour le président, que ça détermine. Il faudrait justement qu'il y ait cette dialectique que j'appelle une dialectique de la représentation.
C'est cela. Et juste d'un mot, alors vraiment d'un mot, le phénomène Trump, on l'a beaucoup analysé. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il déborde le parti républicain, bien sûr.
Et l'autre question qui se pose, vous l'avez posée vous-même, c'est effectivement, quel est le rôle, la fonction et la composition de partis politiques de nos jours?
Dick Howard, professeur émérite à l'université de Stony Brook à New York, encore une fois pour télécharger l'émission et la réécouter franceculture.fr. Et demain, donc, sur Arte à 19h30, en partenariat avec les enjeux internationaux, nos amis du Dessous des Cartes, qui vont justement parler de cartes, révolution cartographique, point d'interrogation, à propos de la création de Maps en 2005 par l'américain Google.